Chapitre 1. Le consul s'éveilla avec la migraine, la gorge sèche et la sensation d'avoir oublié 1000 rêves caractérisant la sortie des périodes de fugue cryotechnique. Il battit des paupières, se redressa sur la couchette basse et arracha d'une main encore engourdie les derniers carrés adhésifs qui lui maintenaient sur la peau les moniteurs de fonction vitale. Il y avait avec lui, dans la cabine ovoïde sans fenêtre, deux clones d'équipage, de très courte taille, ainsi qu'un templier. L'un des clones lui offrit le traditionnel verre de jus d'orange, auquel il s'empressa de goûter avidement. L'arbre est actuellement à 5 h 2 min lumière d'Hyperion, lui dit le templier. Le consul s'aperçut alors que c'était Het Mastin, le commandant du vaisseau arbre des templiers, également appelé la voix de l'arbre authentique, qui s'adressait ainsi à lui. Il songea confusément que c'était un bien grand honneur que lui faisait le commandant en venant le réveiller en personne, mais il était encore trop engourdi par l'état de fugue pour apprécier cet honneur à sa juste valeur. « Les autres sont déjà réveillés depuis quelques heures », lui dit Het Mastin en faisant un geste impérieux au clone pour qu'il se retire. « Ils se trouvent tous dans la salle à manger principale. » fit le consul avant de boire le reste de son jus. Il se racla la gorge et fit un nouvel essai.
« Je vous remercie beaucoup, Het Mastin, »
réussit-il à dire. Il regarda autour de lui. La cabine ovoïde possédait une moquette vert gazon et une paroi translucide aux nervures de bois de vorte d'un seul tenant. Il devait se trouver dans l'une des petites nacelles à environnement contrôlé du vaisseau. Fermant les yeux, le consul essaya de rassembler ses souvenirs du rendez-vous spatial juste avant le saut quantique de l'Yggdrasil. Il se rappela la première fois qu'il avait vu le vaisseau arbre d'un kilomètre de long en train de se rapprocher du lieu de rendez-vous. La forme de l'Yggdrasil était rendue floue par les multiples champs de confinement générés par des ergues ou par des machines qui entouraient le vaisseau d'une sorte de cocon de brume à travers lequel la coque de feuilles brillait cependant de 1000 lumières qui perçaient à travers les parois minces des coursives, les nacelles à environnement contrôlé, les passerelles de commandement, les échelles et les berceaux de verdure ou de manœuvre. À la base du vaisseau arbre, des sphères abritant des machines ou la cargaison s'agglutinaient comme des gales géantes, tandis que les traînées des systèmes de propulsion, mauves et bleutées, prolongeaient le tronc comme un réseau de racines effilochées longues de 10 km.
« On nous attend », murmura Het Mastin en hochant le menton en direction des coussins bas,
où les bagages du consul attendaient, prêts à s'ouvrir à son commandement. Le templier s'absorba dans la contemplation des nervures de bois de vorte, tandis que le consul revêtait sa tenue de semi-apparat. Pantalon noir sans plis, chaussures vernies, chemise de soie blanche bouffante aux manches et à la taille, cordelière à curseur en topaze, vareuse noire mi-longue, épaulette à taillade écarlate de l'hégémonie et tricorne dorée. Une partie de la paroi incurvée lui servant de miroir, il contempla avec complaisance l'image d'un homme d'âge plus que mûr, en semi-uniforme, à la peau tannée par le soleil, mais étrangement pâle au-dessous des yeux tristes. Plissant le front, il se détourna subitement. Het Mastin fit un geste quelque peu impatient, et le consul suivit la haute silhouette, drapée de la tête aux pieds, à travers le diaphragme de la nacelle, puis sur un pont incliné qui s'enroulait à perte de vue dans les hauteurs de l'écorce massive du vaisseau-arbre. Le consul s'arrêta, se colla contre la paroi du pont découvert, opposé au vide, et fit un pas en arrière. Il y avait au moins 600 mètres de vide au-dessous de lui, la sensation de bas étant produite par la gravité d'un 1/6 g standard que créaient les singularités emprisonnées à la base de l'arbre. Et il n'y avait pas le moindre garde-fou. Ils reprirent leur ascension silencieuse et quittèrent le tronc principal 30 mètres et une demi-spirale plus haut pour traverser un pont suspendu d'aspect fragile qui les mena jusqu'à une coursive de 5 mètres de large. Ils suivirent cette coursive vers l'extérieur jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit où le foisonnement du feuillage retenait tout l'éclat du soleil d'Hyperion.
« Est-ce que mon vaisseau a été sorti de cale ?» demanda le consul.
« Le plein est fait. » Et il vous attend dans la sphère numéro 11,
lui répondit Het Mastin tandis qu'il passait dans l'ombre du tronc,
et que les étoiles devenaient visibles à travers les trouées du feuillage.
Les autres pèlerins sont d'accord pour descendre avec vous si les responsables de la force vous y autorisent.
Le consul se frotta les yeux. Il aurait préféré avoir un peu plus de temps pour se remettre du choc cryotechnique.
« Vous êtes déjà entré en contact avec eux ? »
demanda-t-il.
« Bien sûr. Ils nous ont fait des sommations dès l'instant où nous sommes sortis du saut quantique. Un vaisseau de guerre de l'hégémonie nous escorte en ce moment. »
Le Templier fit un geste vague en direction d'une partie de l'espace au-dessus d'eux. Le consul plissa les yeux pour essayer d'apercevoir quelque chose, mais les branches supérieures sortirent à ce moment-là de l'ombre du tronc et chaque feuille de l'arbre s'embrasa des couleurs du couchant. Même dans les endroits encore plongés dans l'ombre, des oiseaux lampires étaient perchés comme des lanternes japonaises au-dessus des coursives éclairées, des lianes luminescentes et des ponts suspendus phosphorescents, tandis que les lucioles de l'ancienne Terre et les somptueuses diaphanes d'Alliance Maui luisaient par intermittence, comme pour se frayer un chemin codé à travers les labyrinthes du feuillage, en se confondant suffisamment avec les constellations pour tromper l'œil du voyageur le plus habitué aux espaces interstellaires. Et Mastin s'avança dans un panier élévateur suspendu à un câble en filament de carbone renforcé qui se perdait dans les 300 mètres de frondaison au-dessus d'eux. Il remarqua que les coursives, nacelles et plateformes étaient curieusement désertes, à l'exception de quelques templiers et des clones d'équipage qui les suivaient comme leur ombre. Le consul ne se souvenait pas d'avoir aperçu d'autres passagers durant l'heure bien remplie qu'il avait passée entre le rendez-vous spatial et sa mise en fugue. Il avait attribué cela à l'imminence du saut quantique, pensant que les autres passagers étaient déjà confortablement installés dans leur caisson de fugue. Mais le vaisseau voyageait à présent bien en dessous des vitesses relativistes, et ses branches auraient dû être chargées de passagers le nez en l'air et la bouche ouverte. Il fit part de son étonnement aux Templiers.
« Nous n'avons que 6 passagers pour ce voyage »,
lui répondit Et Mastin, tandis que le panier s'arrêtait au milieu d'un entrelacement de branches. Le commandant du vaisseau-arbre le précéda alors sur les marches de bois d'un escalier poli par l'âge, qu'il gravit agilement. Le consul cligna des paupières, surpris. Normalement, un vaisseau-arbre templier transportait de 2000 à 5000 passagers. C'était, de loin, la manière la plus agréable de voyager entre les étoiles. Les vaisseaux-arbres accumulaient rarement un déficit de temps de plus de 4 ou 5 mois, réduisant leur traversée touristique aux endroits où les systèmes stellaires n'étaient distants entre eux que de quelques années-lumière et faisant en sorte que leurs riches passagers passent aussi peu de temps que possible en état de fugue. Un aller-retour pour Hyperion, représentant 6 années entières en temps rétien, sans aucun passager payant à bord, devait être une véritable catastrophe financière pour les Templiers. Le consul s'avisa alors, en se reprochant d'avoir été si long à comprendre, que le vaisseau-arbre était l'instrument idéal de l'évacuation qui se préparait. Les dépenses occasionnées incomberaient de toute évidence à l'hégémonie. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de se dire que le fait d'introduire un vaisseau aussi luxueux et aussi vulnérable que l'Yggdrasil, il n'en existait que 5 en tout comme lui, dans une zone de combat, représentait un risque terrible pour la fraternité des Templiers.
« Et voici les pèlerins qui vous accompagneront »,
annonça Et Mastin. Il s'avança, suivi du consul, sur une large plateforme où un petit groupe attendait à une extrémité d'une longue table en bois. Au-dessus d'eux, les étoiles scintillaient d'un éclat ardent, basculant occasionnellement lorsque le vaisseau-arbre subissait un mouvement de lacet ou de tangage, tandis que de part et d'autre du tronc, une sphère de feuillage dense s'écartait en s'incurvant, comme l'écorce verte de quelques fruits géants. Le consul avait identifié cette plateforme comme la salle à manger privée du commandant avant même que les 5 autres passagers ne se fussent levés pour laisser Et Mastin prendre place à une extrémité de la table. Il ne restait qu'un seul fauteuil inoccupé à la gauche du commandant, et il s'y assit. Lorsque le silence se fit, Et Mastin procéda à des présentations en règle. Le consul ne connaissait personnellement aucun des 5 autres, mais plusieurs noms lui étaient familiers, et il fit appel à sa longue expérience de diplomate pour mettre soigneusement de côté dans sa mémoire les identités et les impressions reçues. À sa gauche se trouvait le père Lennart Hoyt, un prêtre de la très ancienne église chrétienne, connue sous le nom d'Église catholique. L'espace d'un instant, le consul avait oublié la signification de la robe noire et du col romain. Mais il s'était souvenu ensuite de Saint François de l'Hôpital sur la planète Hébron, lorsqu'il avait fait l'objet d'une thérapeutique anti-alcoolique à la suite de sa désastreuse première mission diplomatique, près de 4 décennies standard plus tôt. À la mention du nom de Hoyt, le consul se souvint également d'un autre membre du clergé qui avait disparu de la surface d'Hyperion en plein milieu de son mandat diplomatique. Lénard Hoyt était un homme jeune, tout au moins comparé au consul. Il ne devait pas avoir beaucoup plus de 30 ans, mais on avait l'impression, en le voyant, que quelque chose était arrivé dans un passé très récent qu'il avait prématurément vieilli. Il observa longuement son visage maigre, ses pommettes osseuses qui creusaient la peau de son visage au teint jaunâtre, ses grands yeux profondément enfoncés, ses lèvres fines agitées d'un perpétuel tressaillement nerveux vers le bas, qui ne méritait même pas le nom de sourire cynique. La ligne de naissance des cheveux sur son front, pas tant dégarnie que ravagée par les radiations, et il eut l'impression d'avoir devant lui un homme malade depuis de nombreuses années. Cependant, il fut surpris de constater aussi que derrière ce masque de douleur caché, subsistaient quelques échos du jeune homme qu'il avait été naguère, un jeune homme au visage rond, au teint clair, aux lèvres pleines, beaucoup moins malsain et cynique que le père Hoyt actuel. Près du prêtre était assis un personnage dont l'image avait été familière quelques années auparavant à la plupart des citoyens de l'hégémonie. Le consul se demandait si la durée d'intérêt collectif de l'opinion publique rétienne était aussi courte en ce moment qu'elle l'avait été de son temps. Encore plus courte, sans doute. Dans ce cas, le colonel Fedman Kassad, surnommé le boucher de Brescia, ne devait plus être ni célèbre ni infâme. Mais, pour la génération du consul et pour tous ceux qui vivaient expatriés à la lisière plus lente des choses, Kassad n'était pas quelqu'un que l'on pouvait oublier aisément. Le colonel était un homme de haute taille, presque assez grand pour regarder Het Mastin, avec ses 2 mètres, directement dans les yeux. Il portait l'uniforme noir de la force, sans indication de grade ni de décoration. Son habit ressemblait étrangement, en fait, à celui du père Hoyt, mais il n'y avait aucune ressemblance physique réelle entre les deux hommes. Alors que le prêtre présentait un aspect maladif et usé, Kassad, avec son teint basané, semblait au contraire en pleine forme, sec comme un manche de fouet, noueusement musclé aux épaules, au cou et aux avant-bras. Ses yeux étaient noirs, petits, et doté d'un champ de vision qui paraissait aussi ample que celui de quelques caméras vidéo primitives. Son visage était tout en angles, facettes, ombres et saillants. Non pas creusé comme celui du père Hoyt, mais taillé dans de la pierre glacée. Une mince ligne de barbe suivant le contour de sa mâchoire inférieure accentuait le caractère acéré de son visage aussi sûrement que des traces de sang sur la lame d'un poignard. Les mouvements lents, chargé d'intensité, du colonel, rappelait au consul un jaguar de la terre qu'il avait vu dans le zoo privé d'un vaisseau d'ensemencement sur Lucius, de nombreuses années auparavant. La voix de Kassad était douce et réservée, mais le consul ne pouvait manquer de remarquer que même ses silences commandaient le respect et l'attention de tous. Seule une petite partie de la longue table était occupée, à une extrémité. Face à Fedman Kassad était assis un homme qui leur avait été présenté comme le poète Martin Silenus. Silenus était, physiquement, tout le contraire du soldat assis en face de lui. Alors que Kassad était grand et maigre, Martin Silenus était trapu et d'une corpulence plutôt informe. Son visage, loin d'avoir les traits durs et acérés de Kassad, était aussi mobile et expressif que celui d'un petit primate de la Terre. Sa voix était un rauquement sonore et profane. Il y avait quelque chose, se disait le consul, de presque agréablement démoniaque dans la personnalité de Martin Silenus, avec ses pommettes rouges, sa large bouche, ses sourcils obliques, ses oreilles pointues et ses mains perpétuellement en mouvement, avec des doigts démesurément longs de pianiste de concert ou d'étrangleur. Et sa chevelure argentée coupée court, avec une frange taillée à la serpe qui lui retombait sur le front. Martin Silenus semblait physiquement proche de la 60aine, mais le consul remarqua la coloration bleue caractéristique de sa peau au niveau de la gorge et des paumes des mains. Cet homme avait dû subir, et plus d'une fois, le traitement Poulsen. Son âge réel devait se situer plutôt entre 90 et 150 années standard. Et le consul savait que s'il était plus proche de ce dernier âge, il ne devait pas avoir toute sa raison. Contrastant avec la truculence et l'alacrité de Martin Silenus au premier abord, l'invité suivant, assis à la grande table, donnait une impression de retenue intelligente et particulièrement impressionnante. Lorsque Het Mastin avait présenté Sol Weintraub et que celui-ci avait levé les yeux, le consul avait été frappé par la courte barbe grise, le front ridé et le regard à la fois triste et lumineux du célèbre érudit. Il avait plus d'une fois entendu parler du juif errant et de sa quête sans fin, mais il n'en fut pas moins choqué de voir que le vieillard tenait en ce moment le fameux bébé dans ses bras, sa fille Rachel, âgée de quelques semaines à peine. Il avait détourné les yeux, gêné. Le sixième pèlerin, la seule femme assise à cette table, s'appelait Braun Lamia. Lorsqu'elle avait été présentée aux autres, la célèbre détective privée avait fait peser sur le consul un regard chargé d'une telle intensité qu'il en sentait encore le poids après qu'elle eût tourné la tête. Ex-citoyenne de la planète Lusus, où la gravité atteignait 1,3 G, Braun Lamia n'était pas plus grande que le poète assis deux fauteuils plus loin sur sa droite, mais même sa combinaison de voyage aux formes amples, en velours côtelé, ne parvenait pas à dissimuler la musculature puissante de son corps trapu. Des boucles noires descendaient jusqu'à ses épaules, et ses sourcils épais barraient un large front. L'arête de son nez était rectiligne, accentuant le caractère aquilin de son regard. Sa bouche était large et expressive, au point d'être sensuelle, et légèrement relevée aux commissures en un sourire qui pouvait être soit cruel, soit simplement joueur. Ses yeux noirs semblaient mettre l'observateur au défi de décider si c'était l'un ou l'autre. Le consul s'avisa alors que Braun Lamia pouvait, tout compte fait, passer pour une belle femme. Les présentations achevées, il s'éclaircit la voix et se tourna vers le Templier pour demander « Het Mastin, vous nous avez annoncé qu'il y aurait sept pèlerins. Devrions-nous en conclure que le septième serait le bébé de H. Weintraub ?» Le capuchon du Templier s'anima d'un lent mouvement latéral de dénégation. « Certainement pas. Seules les personnes ici présentes en mesure de prendre la décision consciente de se rapprocher du Gritch peuvent être considérées comme faisant partie du pèlerinage. » Un léger mouvement d'hésitation se propagea à travers le groupe. Chacun, comme le consul, devait savoir qu'il fallait impérativement que le nombre des pèlerins soit égal à un nombre premier pour qu'ils puissent entreprendre leur voyage vers le nord sous l'égide de l'église Gritchtek. « Le septième, c'est moi », déclara Het Mastin, commandant du vaisseau templier Yggdrasil, et voix de l'arbre authentique. Puis, dans le silence qui suivit cette annonce, Het Mastin fit un geste et un groupe de clones d'équipage entreprit de servir aux pèlerins leur dernier repas avant la descente vers la surface de la planète.
« Les extros n'ont pas encore atteint ce système ?» demanda Braun Lamia.
Sa voix de gorge, légèrement voilée, avait quelque chose qui soulevait une étrange émotion chez le consul.
« Non, » lui dit Het Mastin. Mais nous n'avons probablement guère plus de quelques jours standards d'avance sur eux. Nos instruments ont décelé quelques activités de fusion nucléaire à l'intérieur du nuage Dwart de ce système.
« Cela signifie qu'il y aura la guerre ?»
demanda le père Hoyt, dont la voix semblait aussi fatiguée que l'expression de son visage. Voyant que personne n'était volontaire pour lui répondre, le prêtre se tourna légèrement vers la droite, comme pour poser rétroactivement sa question au consul. Celui-ci soupira. Les clones d'équipage avaient servi du vin. Il aurait préféré du whisky.
« Comment prévoir le comportement des extros ? » demanda-t-il. « Ils ne semblent plus du tout motivés par des considérations de logique humaine. »
Martin Silenus éclata d'un rire sonore et fit un grand geste qui répandit quelques gouttes de son vin sur la table. Il but une longue gorgée, s'essuya la bouche et se remit à rire.
« Comme si nous autres, les humains, nous étions toujours motivés par cette putain de logique humaine !»
s'exclama-t-il. Braun Lamia fronça les sourcils.
« Si des combats sérieux éclatent dans ce secteur, dit-elle, les autorités ne nous laisseront peut-être pas nous poser. »
Ne vous inquiétez pas pour ça, fit Etmastin. Nous passerons.
La lumière pénétrant à travers les replis de son capuchon éclairait seulement quelques fragments de peau jaunâtre.
Sauvé d'une mort certaine au milieu de la guerre, pour être envoyé à une mort certaine entre les griffes du Gritch,
murmura le père Hoyt.
Il n'est nulle mort dans tout l'univers,
psalmodia Martin Silenus d'une voix qui aurait, le consul en était convaincu, fait sortir n'importe qui d'une fugue cryotechnique profonde. Ayant bu la dernière goutte de vin et levé son verre vide pour porter, semblait-il, un toast aux étoiles, le poète continua.
Nulle odeur de mort, il n'y aura nulle mort. Pleure donc, pleure, si belle, car tes pernicieux bébés ont transformé un dieu en un agité sans pouvoir. Pleurez aussi, mes frères, pleurez, car j'ai perdu mes forces. Faible comme le roseau, oui, si faible, et sans voix. Plus rien que la douleur et la faiblesse. Pleurez, oh pleurez, car je n'ai pas encore fini de me réchauffer.
Il s'interrompit brusquement pour se verser encore un peu de vin, en éructant dans le silence qui avait suivi sa déclamation. Les six autres s'entre-regardèrent. Le consul nota que Sol Weintraub souriait doucement, jusqu'au moment où le bébé qu'il tenait dans les bras s'agita.
Eh bien, fit le père Hoyt en hésitant, comme s'il cherchait à renouer les fils de sa pensée. Si les forces de l'hégémonie évacuent Hyperion, et si les extros s'en emparent, il n'y aura peut-être pas de sang versé, et il se peut qu'on nous laisse vaquer à nos occupations.
Le colonel Fedman Kassad émit un rire sec.
Les extros n'ont aucune intention d'occuper Hyperion, dit-il. S'ils s'emparent de cette planète, ce sera pour la mettre à sac, avant d'en brûler les cités, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une croûte carbonisée qu'ils briseront en petits morceaux pour les jeter au feu afin qu'ils rougeoient davantage. Ils feront fondre les pôles, bouillir les océans, puis se serviront des scories pour saupoudrer les continents de manière à être certain que plus rien n'y poussera jamais.
Balbutia le prêtre, dont la voix s'éteignit aussitôt. Toute conversation cessa tandis que les clones retiraient les assiettes de potage et de salade pour apporter le plat principal.
Vous dites qu'un bâtiment de guerre de l'hégémonie nous escorte, demanda le consul à Etmastin, tandis qu'ils achevaient leur rosbif ou leur ragoût de calamar volant.
Le templier hocha affirmativement la tête, tout en pointant l'index. Mais le consul eut beau écarquiller les yeux, il ne distingua aucun objet en mouvement sur le champ d'étoiles en rotation.
« Tenez !»
lui dit Fedman Kassad en se penchant du côté du père Hoyt pour lui passer des jumelles militaires à monture télescopique. Le consul le remercia d'un signe de tête, enfonça du pouce le bouton de mise en service et balaya la partie du ciel indiquée par Etmastin. Les cristaux gyroscopiques laissèrent entendre un léger bourdonnement tandis que la stabilisation optique s'effectuait et que la zone était scannée selon un programme de recherche méthodique. Brusquement, l'image se figea, devint floue, s'élargit, puis se stabilisa. Le consul ne put réprimer une exclamation étouffée lorsque le vaisseau de l'hégémonie s'inscrivit tout entier dans le système d'oculaire. Ce n'était ni la trace diffuse d'un monoplace de reconnaissance, à laquelle il s'attendait plus ou moins, ni la forme en bulbe d'un vaisseau torche. L'image électroniquement délimitée était celle d'un gros porteur de combat, d'un noir mat. Il était particulièrement impressionnant, comme seuls les grands bâtiments de guerre ont su l'être au cours des siècles. Ce vaisseau hégémonien à effet de spin avait une ligne tout à fait incongrue avec ses quatre bouquets de mâts rétractés en position de combat, sa sonde maîtresse de 60 mètres de long, aussi effilée qu'un éclat de silex, son propulseur Hawking et ses carters de fusion répartis à l'arrière du corps de lancement comme des plumes sur la tige d'une flèche. Le consul rendit les jumelles à Kassad sans faire le moindre commentaire. Si la force d'évacuation avait besoin d'un gros porteur de combat pour escorter l'Yggdrasil, quelle sorte de puissance de feu était-on en train de mettre en place aux abords de la planète pour faire pièce à l'invasion extro? Dans combien de temps arrivons-nous ?
Demanda Brown Lamia. Elle avait utilisé son perso-com pour accéder à l'infosphère du vaisseau arbre, et il était visible que la réponse, ou peut-être l'absence de réponse, avait été frustrante.
Nous nous placerons en orbite dans 4 heures,
murmura Et Mastin.
Il faut compter quelques minutes de plus pour gagner la surface à bord d'un vaisseau de descente. Notre ami le consul ici présent veut bien mettre son appareil à votre disposition.
À destination de Kitz ? Demanda Sol Weintraub. C'était la première fois que l'érudit ouvrait la bouche depuis le début du dîner. Le consul hocha la tête en confirmant.
C'est le seul astroport d'Hyperion équipé pour accueillir des vaisseaux transportant des passagers.
Astroport ? Fit le père Hoyt d'une voix contrariée. Je croyais que nous gagnerions directement les régions du Gritch, au nord.
Et Mastin secoua la tête avec patience.
Le pèlerinage part traditionnellement de la capitale, expliqua-t-il. Il nous faudra plusieurs jours pour arriver jusqu'au tombeau du temps.
Plusieurs jours ? S'écria Brown Lamia. Mais c'est absurde !
C'est possible, reconnut Et Mastin, mais nous n'y pouvons rien.
Le père Hoyt donnait l'impression d'avoir mal digéré une partie de son repas. Pourtant, il n'avait presque rien mangé.
Écoutez, dit-il, vous ne croyez pas qu'on pourrait faire une exception juste pour cette fois-ci ? Avec toutes ces rumeurs de guerre, ne pourrions-nous pas nous poser près des tombeaux du temps afin d'en finir au plus vite avec cette histoire ?
Le consul secoua la tête.
Il y a près de 4 siècles que des appareils aériens ou spatiaux essaient de trouver un raccourci pour se poser sur les terres marécageuses du Nord, dit-il. Mais personne n'a jamais réussi dans une telle entreprise, à ma connaissance.
Est-il indiscret de demander,
fit Martin Silenus en levant allègrement la main comme un écolier,
ce qu'il est advenu de toutes ces foutues légions de vaisseaux?
Le père Hoyt fronça les sourcils en direction du poète. Fedman Cassad eut un petit sourire.
Le consul n'avait pas l'intention de suggérer que la région était inaccessible, dit Sol Weintraub. On peut la traverser par plusieurs itinéraires routiers ou aériens, et les vaisseaux dont il parlait ne disparaissent pas comme par enchantement. Ils se posent sans problème à proximité des ruines des tombeaux du temps, et ils retournent tout aussi aisément là où leur ordinateur de bord les conduit. Mais ce sont leurs pilotes et leurs passagers que l'on ne revoit plus jamais.
Il souleva l'enfant qui dormait sur ses genoux et le passa dans la sangle porte-bébé passée autour de son cou.
« C'est ce que dit la vieille légende, »
murmura Brown Lamia.
« Mais qu'indiquent les boîtes noires des vaisseaux ?»«
Rien du tout, » dit le consul. « Aucune trace de violence, aucune entrée forcée, aucune déviation de cap, aucune anomalie chronologique, aucune émission ni perte d'énergie inhabituelle. Pas le moindre phénomène physique suspect.
Mais pas de passagers non plus, »
renchérit Et Mastin. Le consul ne laissa pas voir sa surprise. Si c'était une plaisanterie que Et Mastin venait d'essayer de faire, c'était bien la première, aussi rustique fut-elle, qu'il entendait de la bouche d'un templier depuis le début de sa longue carrière. Mais le peu qu'il voyait sous le capuchon, des traits vaguement orientaux du commandant, ne lui permettait pas de dire que celui-ci avait effectivement voulu plaisanter.
« Merveilleux mélodrame !»
sourit Silenus.
Une vraie mer spirituelle de Sargasse, faite de larmes du Christ, et nous allons tous y plonger comme un seul homme. J'aimerais bien savoir qui a écrit ce scénario de merde, en tout cas.
Taisez-vous, lui dit Brown Lamia. Vous êtes complètement saoul, mon vieux.
Le consul soupira. Il n'y avait même pas une heure standard que le groupe s'était constitué. Les clones de l'équipage emportèrent leurs assiettes et revinrent chargés de corbeilles de fruits du vaisseau arbre, de sorbets, de tartes, de gâteaux à base de chocolat de la planète Renaissance et de tasses de café fumantes. Martin Silenus repoussa d'un geste tous ses desserts et demanda au clone de lui apporter une autre bouteille de vin. Le consul, après quelques secondes de réflexion, demanda un whisky.
Il me vient à l'esprit, déclara Sol Weintraub tandis que le groupe finissait son dessert, « que notre survie dépendra peut-être des propos que nous échangerons. Que voulez-vous dire ?
demanda Brown Lamia. Weintraub berça machinalement l'enfant endormi contre sa poitrine.
Par exemple, l'un d'entre nous connaît-il les raisons précises qui l'ont fait désigner par l'église Grichtek et la Pangermie pour faire partie de ce pèlerinage?
Personne ne répondit.
C'est bien ce que je pensais, reprit Weintraub. Et il serait encore plus fascinant de savoir si l'une des personnes ici présentes est membre de l'église Grichtek ou sympathise avec elle. En ce qui me concerne, je suis juif, et même si mes sentiments religieux sont devenus particulièrement confus par les temps qui courent, ils ne m'autorisent certainement pas à vénérer une machine organique à tuer.
Il haussa ses épais sourcils, faisant du regard le tour de la table.
« Je suis la voix de l'arbre authentique, » murmura Het Mastin. Même si beaucoup de Templiers pensent que le Gritch est l'avatar du châtiment pour ceux qui ne se nourrissent pas à la racine, je suis obligé de considérer qu'il s'agit là d'une hérésie que rien, dans l'Alliance ou dans les textes sacrés du Muir, ne saurait autoriser.
À la gauche du commandant, le consul eut un haussement d'épaule. « Je suis athée, » dit-il en levant son verre de whisky à la lumière. « Je n'ai jamais eu de contact avec l'église Grichtek. »
Le père Hoyt eut un sourire sans joie.
« C'est l'église catholique qui m'a ordonné prêtre, » murmura-t-il. « Porter un culte au Gritch serait en contradiction avec tous ses préceptes. »
Le colonel Kassad secoua la tête en un geste qui pouvait être interprété soit comme un refus de répondre, soit comme l'indication qu'il n'appartenait pas à l'église Grichtek.
Martin Silenus écarta théâtralement les bras.
« J'ai été baptisé selon le rite luthérien, » dit-il. « C'est une dénomination qui n'existe plus. J'ai participé à la création du gnosticisme zen bien avant la naissance des parents d'aucun d'entre vous. J'ai été catholique, révélationniste, néo-marxiste, zélote d'interface, briseur de limites, sataniste, évêque du Nada dans l'église de Jake, membre cotisant à l'Institut de la réincarnation assurée. Mais aujourd'hui, je suis heureux de vous dire,
conclut-il en adressant un sourire à l'ensemble du groupe,
que je ne suis plus qu'un simple païen. Et pour un païen, le Gritch me semble constituer une divinité acceptable.
« Je ne fais que peu de cas des religions, » déclara Brown Lamia. « Je ne succombe à aucune d'entre elles. »
« J'espère que tout le monde voit à présent ce que je voulais dire, » fit Sol Weintraub.
« Personne ici n'admet adhérer au dogme du Gritch, et cependant les anciens de ce culte très perceptif nous ont désignés, nous, de préférence à des millions et des millions de fidèles qui n'attendaient que cette occasion, peut-être la dernière, de se rendre sur le site des tombeaux du temps à la rencontre de leur dieu féroce. »
Le consul secoua la tête.
« J'avoue que je ne vois toujours pas ce que vous vouliez nous prouver, H. Weintraub. »
L'érudit se lissa machinalement la barbe.
« Il semblerait que nos différentes motivations pour retourner sur Hyperion soient si puissantes que même l'église Grichtek et les intelligences spéculatrices de l'hégémonie s'accorde à dire que nous méritons de participer à ce pèlerinage. Mais si certaines de nos raisons, les miennes entre autres, paraissent suffisamment claires aux yeux de tous, je crois pouvoir affirmer que ce n'est pas le cas de tout le monde et que seule chaque personne concernée les connaît, au demeurant, dans leur intégralité.
C'est pourquoi je propose, durant les quelques jours qui nous restent,
que chacun fasse part de son récit aux autres.
« À quoi bon ?»
demanda le colonel Kassad.
« Je ne vois pas en quoi cela nous avancera. »«
Cela nous distraira au moins, » fit Weintraub avec un sourire.
« Et nous y trouverons peut-être l'occasion de soulever un coin du voile qui dissimule l'âme de chacun de nos compagnons avant que le Gritch ou quelque autre calamité ne vienne nous distraire pour de bon de nos occupations habituelles.
Sans compter que nous en apprendrons peut-être suffisamment pour préserver nos vies, si toutefois nous sommes assez intelligents pour découvrir le fil commun dans nos expériences respectives qui relie notre sort aux caprices du Gritch. »
Martin Silenus éclata de rire et se mit à déclamer, les paupières à demi fermées,
chacun chevauchant un dauphin, calé par une nageoire, ces innocents revivent leur mort et leurs blessures se rouvrent.
C'est de l'Enista ? Demanda le père Hoyt. Je l'ai étudié au séminaire.
Vous n'êtes pas très loin,
lui dit Silenus en rouvrant les yeux pour se servir un nouveau verre de vin.
C'est de Yeats. Le bougre a vécu 500 ans avant que l'Enista ne tète le sein métallique de sa mère.
Écoutez, fit Lamia. À quoi cela nous avancera-t-il de raconter notre histoire aux autres? Si j'ai bien compris, lorsque nous serons en présence du Gritch, c'est à lui que nous devrons dire ce que nous désirons, et le vœu d'un seul d'entre nous sera exaucé. Tous les autres mourront, c'est bien ça.
C'est ce que dit la légende, acquiesça Weintraub. Le Gritch n'est pas une légende, lui dit Kassad. Pas plus que l'arbre d'acier.
N'importe comment. Pourquoi nous infligerions-nous nos récits respectifs ?
Demanda Brown Lamia en piquant de la pointe de son couteau le dernier morceau de son gâteau au chocolat. Weintraub effleura d'une main tendre le crâne du bébé endormi. « Parce que nous vivons des temps étranges, dit-il, et que nous faisons partie de l'infime pourcentage des citoyens de l'hégémonie qui se déplacent d'une étoile à l'autre au lieu d'emprunter les mailles du Retz. » Nous représentons des époques révolues de notre histoire récente. Ainsi, en ce qui me concerne, je suis âgé de 68 années standard, mais compte tenu du déficit temporel que mes différents voyages auraient pu me procurer, j'aurais pu étaler ces 68 ans sur plus d'un siècle d'histoire de l'hégémonie.
« Et alors ?» demanda Brown Lamia.
Weintraub écarta les bras en un geste qui englobait tous ceux qui étaient assis autour de la table.
Tous nous représentons aussi bien des îlots de temps que des océans distincts de perspectives. Ou peut-être devrais-je dire plutôt que chacun d'entre nous détient sans doute un morceau d'un puzzle que personne n'a jamais été capable de résoudre depuis que l'humanité a découvert Hyperion. C'est un véritable mystère pour nous, ajouta-t-il en se grattant le nez. À dire le vrai, les mystères m'ont toujours intrigué, même lorsqu'ils risquent d'abréger sérieusement mes jours. Et faute d'y voir clair dans cette affaire, je me contenterai de découvrir quelques morceaux du puzzle.
Je suis tout à fait d'accord avec lui,
déclara Het Mastyn sans manifester la moindre émotion.
Je n'y avais pas pensé avant, mais je pense qu'il serait sage de comparer nos expériences avant de faire face au Gritch.
Qu'est-ce qui peut garantir que nous dirons la vérité?
Demanda Brown Lamia.
Rien du tout, en effet. Sourit Martin Silenus.
C'est ce qui rend la chose encore plus attrayante.
Je propose que nous votions, fit le consul.
Il pensait à ce que lui avait dit Mayna Gladstone sur la présence d'un agent des extros parmi eux. Les récits aideraient-ils à démasquer cet agent? Il faudrait qu'il soit vraiment stupide, se dit-il en souriant à cette pensée.
Qui a décidé pour commencer que ce petit groupe formait une joyeuse démocratie?
Demanda sèchement le colonel Kassad.
Il en va de notre intérêt à tous, fit le consul. Chacun de nous, s'il veut atteindre son objectif, a besoin que le groupe arrive dans le secteur du Gritch. Inévitablement, nous aurons à prendre des décisions collectives.
Est-ce à dire que vous suggérez que nous nous donnions un chef?
Demanda Kassad.
Permettez-moi de cracher là-dessus!
Fit le poète d'un ton badin tandis que d'autres autour de la table secouaient énergiquement la tête.
« Très bien, »
soupira le consul. « Passons au vote. » Le premier point est la suggestion de H. Weintraub selon laquelle chacun racontera l'histoire de ses démêlés passés avec Hyperion.
« Il faut que ce soit tout ou rien, » fit remarquer Het Mastyn. « Chacun fait son récit ou bien personne. » Nous devons nous engager à respecter la volonté de la majorité.
C'est entendu, approuva le consul, soudain curieux d'entendre les récits des autres, mais à peu près sûr de ne jamais avoir à faire le sien.
Qui est en faveur de ces récits?
Moi, dit Sol Weintraub.
Moi, dit Het Mastyn.
Sans problème, déclara Martin Silenus. Je ne raterai pas ce petit intermède comique, même contre un mois entier dans les bains orgastiques de la planète Shot.
Je vote pour, fit le consul, se surprenant lui-même. Quels sont ceux qui votent contre ?
Moi,
dit le père Hoyt d'une voix cependant vidée de toute énergie.
Je trouve cette idée stupide,
fit Brown Lamia. Le consul se tourna vers Cassad. Colonel ?
Fedman Cassad haussa les épaules.
Je recense 4 votes positifs, 2 négatifs et une abstention, annonça le consul. Le oui l'emporte. Qui est volontaire pour commencer ?
La tablée était devenue étrangement silencieuse. Au bout d'un moment, Martin Silenus leva les yeux de la feuille de papier où il avait écrit quelque chose. Il la déchira en plusieurs bandes en disant
« J'ai inscrit ici des numéros de 1 à 7. Pourquoi ne pas tirer au sort l'ordre dans lequel nous passerons ?»«
C'est un procédé enfantin, » fit remarquer H. Lamia.
« J'ai l'âme enfantine, c'est vrai, »
reconnut Silenus avec un sourire de satire.
« Monsieur l'ambassadeur, »
ajouta-t-il en se tournant vers le consul,
« pourriez-vous me prêter un instant l'oreiller cousu d'or qui vous tient lieu de couvre-chef ?»
Le consul lui donna son tricorne. Les 7 bouts de papier pliés furent secoués dans le chapeau, qui passa ensuite de main en main. Sol Weintraub fut le premier à tirer son numéro et Martin Silenus le dernier. Le consul déplia son bout de papier en s'assurant que personne d'autre que lui ne pouvait voir son numéro. C'était le 7. La tension le quitta comme l'air qui s'échappe d'un ballon trop gonflé. Il était tout à fait possible que des événements s'interposent avant son tour ou que la guerre rende toutes ses considérations académiques. Le groupe se désintéresserait peut-être de ses récits, ou bien le roi mourrait, ou bien son cheval, ou bien les poules auraient des dents. « Je ferais mieux d'arrêter le whisky, » songea-t-il.
« Qui a le numéro 1 ?»
demanda Silenus. Il y eut un bref silence, durant lequel le consul entendit le froissement des feuilles dans la brise invisible.
« C'est moi, » dit le père Hoyt.
Son expression était cette résignation à peine refoulée que le consul avait déjà vue maintes fois sur le visage de personne à l'article de la mort. Hoyt leur montra son papier, où un grand 1 s'étalait sur toute la hauteur de la bande.
« Très bien !» fit Silenus. « Nous vous écoutons. »«
Comment ça ? Tout de suite ?»«
Pourquoi pas ?»
répliqua le poète. Il avait déjà absorbé 2 bouteilles de vin, et les seuls signes sur son visage étaient la coloration un peu plus rouge de ses pommettes et l'angle quelque peu démoniaque de ses sourcils obliques.
« Il nous reste quelques heures avant la descente sur la planète, »
reprit-il.
« En ce qui me concerne, j'attendrai d'avoir les pieds bien en sécurité sur le plancher des vaches indigènes avant de faire un somme pour récupérer. »«
Notre ami n'a pas tort, » déclara Sol Weintraub d'une voix douce. « S'il faut que ces récits soient faits, il me semble que le moment le plus civilisé pour cela se situe chaque jour après le repas du soir. » Le père Hoyt se leva en soupirant.
« Je vous demande de m'accorder une minute, »
dit-il. Puis il quitta la plateforme. Au bout de plusieurs minutes, Brown Lamia demanda.
« Vous croyez qu'il a craqué ?»«
Détrompez-vous, »
fit Lennard Hoyt en surgissant de l'ombre de l'escalier en bois qui servait d'accès principal à la salle à manger.
« J'avais besoin de ceci. »
Il laissa tomber sur la table en s'asseyant, 2 petits carnets de notes à la couverture râpée.
Ce n'est pas de jeu de se servir d'un support écrit,
protesta Silenus.
Chacun doit se fendre de son récit personnel, mon cher Magus. Vous allez la fermer, bon sang !
S'écria le père Hoyt. Il se passa la main sur le front, puis se toucha la poitrine. Une fois de plus, le consul se dit qu'ils avaient devant eux un homme extrêmement malade.
Excusez-moi,
reprit le père Hoyt.
« Mais si je dois raconter mon histoire, j'ai besoin de ces carnets, écrits par quelqu'un d'autre. Ils sont l'œuvre de la personne qui est à l'origine de mon premier voyage sur Hyperion et de mon retour aujourd'hui. »
Le père Hoyt s'interrompit pour prendre une longue inspiration. Le consul avança la main pour toucher la couverture de l'un des 2 carnets. Elle semblait brûlée par endroits, comme si elle avait échappé à un incendie.
Votre ami est plutôt vieux jeu, fit-il remarquer au prêtre. Personne ne tient plus de journal écrit de nos jours.
C'est vrai, dit Hoyt. Si tout le monde est prêt, je vais commencer.
Le groupe acquiesça en silence. Sous la plateforme où ils étaient réunis, 1 kilomètre de vaisseau arbre trouait le fond glacial de la nuit d'une pulsation vivante. Seul Weintraub souleva son bébé endormi de l'écharpe qui le maintenait et le plaça sur une natte rembourrée posée par terre au pied de son fauteuil. Il retira son persocom, le posa à côté de la natte et programma le disque pour qu'il diffuse du bruit blanc. Le bébé se retourna sur le ventre sans se réveiller. Le consul se pencha en arrière dans son fauteuil. Il cherchait des yeux l'étoile bleue et vert qui était Hyperion. Lorsqu'il la trouva, il eut l'impression qu'elle grossissait à vue d'œil. Et Mastin rajusta son capuchon de manière que son visage ne soit plus qu'une ombre. Sol Weintraub prépara et alluma posément sa pipe. D'autres se servirent une nouvelle tasse de café. Martin Silenus, qui semblait le plus excité par la perspective de ce récit, se pencha en avant pour réciter dans un souffle.
Il dit « Puisque je dois annoncer le jeu, vive la courte paille, pardieu ! Chevauchons donc et écoutez ce que je vais vous dire. » Sur ces mots, nous reprîmes notre chemin et il commença, sur un ton très joyeux, son conte sans plus attendre. Et raconta comme vous pouvez l'entendre.